Première lecture, le texte Isaïe qui a cette exclamation « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. » Isaïe annonce le Messie. Et comme on aimerait voir un messager de paix à Jérusalem, à Gaza, au Mozambique, au Kibourg, j'en oublie plein, en Ukraine. Et à nous de les faire surgir ici. La paix, elle se prépare chaque jour. Et la guerre, elle est possible quand un peuple laisse monter en lui la haine. Les dirigeants d'un pays ne peuvent pas faire de guerre si l'ensemble du peuple n'a pas laissé monter en lui la haine. Et dans la deuxième lecture, à la lettre aux Hébreux, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. À bien des reprises, Dieu a parlé. Et aujourd'hui encore, il parle. Nous l'avons entendu hier soir dans les différentes veillées, dans la bouche de Gabriel, par exemple, dans le témoignage que je redirai tout à l'heure. Jésus continue à parler dans nos cœurs. Je vois que nous avons ici au moins un catéchumène, un autre, qui se prépare pour notre paroisse. C'est Dieu qui continue d'appeler jour après jour. Et puis, chaque jour de Noël, nous lisons le prologue, hein, le début de l'évangile de Saint Jean. C'est un texte que j'aime tellement que je l'ai appris par cœur, alors pas dans la traduction d'aujourd'hui, mais bon. Au commencement était le Verbe. Et si je veux le comprendre, et ça me parle plus, le Verbe c'est un peu abstrait. Au commencement était Jésus. Au commencement était Dieu qui parle, qui se fait connaître. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. Le mot « au commencement », qu'on a aussi au début de la Genèse, ça ne veut pas dire « il y a des milliards d'années ». Énarché en grec, je ne sais pas grand-chose, mais ça, je m'en souviens. Ça ne veut pas dire « il y a très 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 longtemps, dans le passé ». Ça veut dire « au plus profond de toi est le Verbe, est Jésus, est Dieu qui te parle. » Au fondement de ta vie, qui te crée, ça n'explique pas comment j'ai été fait et comment a été fait la terre. Celui qui te crée, qui te fait être aujourd'hui, qui te fait vivre pleinement aujourd'hui, c'est Jésus. C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Facilement, on va dire que Dieu fait tout. Je m'excuse de paraître un prêtre pas très croyant, mais j'ai tendance à interpréter ça un peu autrement. Si Dieu fait absolument tout en direct, pourquoi les tsunamis? Pourquoi les armes? Pourquoi ce soir, on peut rassembler un nombre de personnes importantes liées à une famille? Un camion a heurté leurs parents. La maman est morte et le papa est dans un état terrible. Ils étaient là. Et comment dire, c'est Dieu qui a fait tout ça, qui a laissé faire? Et Gaza, c'est Dieu qui respecte tout ça. Et puis je suis lié très fortement à plusieurs familles de Mozambique et à Madagascar. Et l'horreur n'arrête jamais. Là, celle que j'aide à Ananarive a été violée le 9 novembre. Dans une sauvagerie folle, il n'a pas le droit de faire tout vagin. Le rectum de l'équipe est dans appris il y a quelques jours qu'elle était enceinte, et puis ce matin, elle m'annonce que c'est pas l'un, mais de deux enfants. Et hier, avant-hier, je lui ai envoyé des sommes importantes pour payer les opérations. Et en allant porter l'argent pour payer l'opération, elle a été agressée, complètement agressée, et volée. Alors Dieu me permet tout ça. J'aime mieux chercher Dieu, enfin, je ne réponds pas au pourquoi de tout ça. Je cherche Dieu plutôt dans la force d'amour qu'il met dans les cœurs d'hommes et de femmes. Par exemple, dans la force d'amour qu'il met dans le cœur de cette fille qui s'appelle Aïna. Aïna, en malgache, ça veut dire la vie. Ça fait 7 ans qu'elle lutte contre des choses de dingue. Eh bien, elle a choisi d'accueillir ses deux enfants. Quand elle pensait qu'elle avait qu'un, elle l'a nommé Emmanuel, Dieu avec nous. En disant, ben, ce que vous avez fait à de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Dieu avec nous, alors c'était l'évangile du jour quand elle a su qu'elle était enceinte. C'était l'annonce à Joseph. C'est aussi que j'ai besoin de Dieu avec moi pour l'accueillir. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Les ténèbres, elles étaient fortes du temps d'Isaïe. Hein, le peuple qui marchait dans les ténèbres avait se levé une grande lumière. Elles étaient fortes avec Jésus, avec la présence des Romains, avec sa descente au milieu du fumier. Les ténèbres, on peut avoir le sentiment aujourd'hui qu'elles ne s'améliorent pas. Peut-être, enfin, il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé cette telle pression pour la guerre dans plein de pays. Cette inconscience, y compris de nombre d'entre vous ici présents par rapport à l'extrême droite. Cette capacité à oublier trop vite le passé. À dire des choses simplistes. Ou à généraliser. Hein, si je vois Gaza, je vais dire les Juifs sont des assassins. Nombre de Juifs sont en désaccord complet avec la sauvagerie de la réponse. Ou on va dire tous les Gazaouis c'est des Hamas. Eh bien non. Eh bien non. Les ténèbres n'ont pas arrêté la lumière. Et il dépend de chacun de nous. Que les ténèbres n'arrêtent pas la lumière du Christ dans nos cœurs. Que nous laissions la lumière de l'Évangile nous toucher. Que nous parlions à contre-courant. Que nous ne nous laissions pas prendre par le désespoir. C'est le moment de croire, de s'attacher au Christ. Pour ceux qui étaient là hier soir à 18h, au début de la messe, un enfant est venu, il a 2 ans. Il m'a dit, est-ce que je peux lire une prière? Alors je croyais qu'il voulait faire des lectures. Donc il avait écrit un texte pour son papa qui avait un cancer du cerveau. Il voulait dire merci à Dieu parce que son papa avait eu une permission le temps de la soirée. Il est de nouveau à l'hôpital aujourd'hui. Il voulait dire merci à Jésus, la présence de son papa. Pour moi, il est aussi un signe de ses ténèbres. Qui n'arrête pas la lumière. Et avec lui, on a prié pour la force de l'Esprit Saint. Il sait bien où passe papa. Mais pour que l'Esprit Saint lui donne la force de vivre chaque jour au mieux avec lui et profiter de ce qu'il a. Je vous ai dit, mais je le redis, un extrait d'une lettre d'un jeune qui a 15 ans et qui demande le baptême, la première communion et la confirmation. Et je dédie ce passage de lettre à toutes les grands-mères, tous les grands-pères qui ont des enfants qui n'ont pas été baptisés, pas catéchisés, et qui parfois s'inquiètent. Et ces grands-mères qui les mort, qui ne voient pas, avec nos yeux, la demande de son petit-fils. En 4e et 3e, les amis me parlaient de Jésus, de ce qu'il pourrait faire si je le laissais entrer dans ma vie. Ainsi, j'ai commencé à me poser des questions. Mais c'est seulement en ce monde que j'ai fait le premier pas
suite au décès de ma grand-mère qui était très croyante, je me suis demandé qu'est-ce qui l'intéressait chez Jésus. Alors j'ai demandé à un ami de m'emmener à l'église pour la Semaine Sainte, à Jean 23, et pour Pâques, pour découvrir qui animait, ce qui animait ma grand-mère. Arrivé là-bas, je me suis senti bien complet, comme si pendant toute ma vie, il me manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Mon cœur s'est serré. Je ressentais une grande joie. Et depuis, je souhaite simplement m'approcher du Seigneur et m'offrir à lui comme il s'est offert sur la croix pour me laver de tout péché. Depuis, je chemine avec d'autres. Je prépare le baptême, la communion, la confirmation. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour un témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Et on peut penser à cette grand-mère. On peut penser aux copains de ce jeune qui lui ont parlé de Jésus. On peut penser à tous ceux qui, parmi vous, essayent d'être témoins pour d'autres, pour qu'ils puissent recevoir la lumière. Aujourd'hui encore, il y a besoin de messagers comme Jean-Baptiste, comme chacun de nous, pour que la lumière parvienne à tous. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant de le monde. Le Verbe était la vraie lumière. Et hier soir, il y avait une maman en pleurs, avec sa fille à côté d'elle, 15 ans. La fille lui a annoncé ces jours-ci qu'elle se convertissait à l'islam. En disant, Jésus, il n'y a que l'islam qui explique pourquoi on est né. Et elle rajoutait, puis les gens nous disent que leur religion est la vraie, mais ça veut dire quoi? Ça ne répond pas à ça. Et nous, on ose dire, le Verbe était la vraie lumière. Et j'étais bien maladroit pour essayer de lui dire que je crois profondément que Jésus est le vrai Messie, de façon qu'elle puisse le recevoir. Et c'est pas si simple d'être Jean-Baptiste pour les jeunes qui sont devant plein d'autres apports, plein d'autres échos. La seule chose que j'étais sûr de pouvoir lui dire de façon juste, parce que sa maman est venue en pleurs en me disant, elle me demande si je vais lui retirer mon amour. Et la seule chose que je pouvais affirmer, c'est, tu peux être certaine que quoi qu'il arrive, ta maman t'aimera. Que l'amour d'une maman, c'est inconditionnel. Mais je te souhaite quand même de découvrir où est la lumière. Elle n'est sans doute pas dans la charme. Elle est plutôt dans le pardon, dans cette révélation d'amour à chacun, chacune. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est une phrase de Saint Jean, il y a 2000 ans. Mais Jésus n'en finit pas de se faire chair aujourd'hui au milieu de nous. Alors, comme vous êtes de plus en plus doués, il y a de moins en moins de lettres pour voir jusqu'à quand vous vous souvenez de ce qui est écrit. Donc, à vous d'en être les émois. C'est les témoins. C'est le thème, c'est la phrase phare du rassemblement kérigma. L'Église en France prend conscience qu'on est devant un nouveau moment. Nombre de gens, et il y en a ici, n'ont pas forcément été baptisés, n'ont pas forcément entendu parler de Jésus quand ils étaient jeunes. Et à nous d'en être les témoins, à nous sans prosélytisme, de trouver les mots, les attitudes qui peuvent aider chacun, comme ce jeune dont j'ai cité la lettre, à venir à la plénitude. Je n'étais pas complet. Il me manquait Jésus. Donc on est chacun, chacune invité à se dire comment d'autres ont été témoins pour moi et qui attend que je sois témoin pour lui. Et on sent bien qu'un témoin, c'est pas forcément aller au coin de la rue, crier à l'aide, il est ressuscité. Que parfois, ça va être savoir ce que que, en tout état de cause, la première manière d'être témoin, ce sera d'aimer, réellement. Et j'ai donné récemment le sacrement des malades à une grand-mère dont les enfants ont abandonné la foi, les 10 enfants ne sont pas catéchisés. On était en soins palliatifs et je lui ai dit, bon, bah, imaginez que je ne suis pas croyant. Mais je lui ai dit, explique-moi, c'est quoi la foi et pourquoi tu demandes le sacrement des malades? Pourquoi ça compte pour toi? Et là, devant ses enfants réunis, ses 10 enfants, elle a pris la parole avec force. Et à la fin, sa fille, absolument athée, lui a dit, maman, ta foi est belle, parce qu'elle est cohérente.